dit, maintenant qu'on a du temps, on pourrait peut-être partir une semaine à la mer, en Bretagne.
Attends, est-ce que tu es vraiment sûr que là-bas, on puisse capter la JT du local?
Et c'est sur l'autre radio.
Et si monter sur scène, ce n'était pas seulement vouloir être vu, mais espérer être rejoint. Il y a des festivals à projecteurs, à planning millimétré, à tête d'affiche et coulisses verrouillées. Et puis il y a le Festigem, où l'on vient écouter autrement, là où les gestes comptent plus que les effets. Un festival du fragile, du vrai, du presque rien et pourtant de l'essentiel. Avec des gens qui vivent, qui doutent, qui jouent et qui ce samedi 21 juin prendront le temps d'exister au présent, debout avec leurs failles, leur humour, leur colère, leurs chansons. À Évron, c'est déjà la 4e édition, c'est une scène construite à hauteur d'humain où le mot « entraide » ne reste pas coincé dans un dossier d'association, mais vibre en live, guitare en main, ou parfois juste à travers un slam un peu tremblant. On y entend des voix qui vacillent, mais qui, dans ce vacillement même, trouvent leur place. On y croise des regards qui ne cherchent pas à convaincre, juste à partager l'instant. Voilà, le Festigem, c'est un moment, un espace dans lequel on entre doucement, on s'y assied sans trop savoir ce qu'on va entendre, et puis sans prévenir, quelque chose nous touche, parce que tout ce qui se joue là n'est pas écrit, n'est pas un rôle écrit à l'avance. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui et tout au long de cette semaine, c'est de lâcher un peu nos certitudes et de rencontrer vraiment. Mais attention, pas n'importe comment, vous allez voir, ce sera en musique. Et pour commencer, l'entretien du jour justement sera avec Pierre Guyavarche, éducateur spécialisé à l'association Gestes Mayenne. Il a lancé ce projet du Festigem il y a 4 ans avec cette idée simple et puissante, offrir une scène à ceux qu'on écoute rarement. À l'occasion de cette nouvelle édition, il vient aussi nous parler des 10 ans du groupe d'entraide mutuelle d'Évron, de ce que ces lieux changent dans une vie, de comment ils fonctionnent, ce qu'ils offrent, ce qu'ils révèlent et de pourquoi parfois il suffit juste d'un espace pour commencer à reprendre sa place. Et puisque la JT du local aime aussi vous faire passer de l'autre côté du rideau, notre reportage du jour nous emmène dans les coulisses du Festigem à la rencontre de l'un des artistes programmés cette année. Il s'appelle Stéphane et il propose un spectacle de slam théâtralisé, sensible et puissant. Je suis allée à sa rencontre pendant ses répétitions, aux côtés de Vincent, père aidant, musicien et compagnon de scène. C'est un moment suspendu entre fragilité et force retrouvée. Ce sera en seconde partie d'émission. Et pour refermer ce moment qu'on passe ensemble, on retrouvera Loïc Bedouet de la Ligue des droits de l'homme de Laval. Une chronique qu'on aime retrouver un lundi sur deux et qui nous aide à affûter notre regard, à questionner ce qui semble acquis et à lire un peu mieux peut-être ce monde qui va vite, trop vite parfois. Et puis évidemment, je ne suis pas seule en studio. Salut Maxime, merci d'être là à mes côtés pour lancer cette nouvelle semaine. Comment est-ce que tu vas? On se sent un peu seul au studio sans Yann.
C'est vrai que Yann nous manque déjà. Bonjour à tous, c'est Pierre et Tomargo.
Eh bien, très bien, puisque l'auditeur de l'autre radio est avec nous. Merci à vous qui écoutez là, quelque part, dans votre cuisine, sur la route, dans un bureau trop aseptisé ou trop bruyant. Merci d'être là, vous qui tendez l'oreille, qui laissez entrer ces voix, ces histoires, ces drôles de rumeurs du vivant. On ne se connaît pas, mais on se reconnaît un peu. On partage cette heure, ce froissement d'ombre, ce goût pour ce qui palpite. Et ça commence tout de suite, croyez-moi, avec l'entretien du jour.
Bah, tu écoutes quoi, là?
Chut! C'est la JT du local. Ça me détend les neurones.
Et c'est sur l'autre radio. Alors je vous le disais, on commence notre voyage sonore à Évron. Le GEM y souffle cette année ses 10 bougies et dans la foulée prépare le Festigem du 21 juin, grand rendez-vous musical inclusif. Alors pour en parler aujourd'hui avec moi, Pierre, chef d'orchestre du festival. Bonjour Pierre et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, merci à toi de porter de l'intérêt à ce qu'on fait.
Alors Pierre, les GEM existent depuis 2005. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un GEM ?
Alors un GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle. La particularité d'un GEM, c'est un lieu, en tout cas pour, je parle pour les GEM de la Mayenne, parce qu'il y a plusieurs GEM dans différents sites. Donc il y a un GEM à Laval, il y a un GEM à Mayenne, un GEM à Évron, un GEM à Château-Gontier, et depuis peu, un GEM à Cran. Et un autre GEM aussi un peu plus spécifique pour les personnes concernées par l'autisme, à Laval également. C'est un espace, on va dire, d'échange et de convivialité qui s'adresse à des personnes qui peuvent être en fragilité psychique, mais pas que. C'est des personnes qui, voilà, dans leur parcours, peuvent se retrouver un petit peu isolées socialement et qui ont besoin de reprendre contact avec l'extérieur, avec d'autres personnes, voilà, à travers des projets. Même pour se nourrir un peu d'une ambiance, d'une convivialité, quoi. Mais l'idée, c'est aussi de monter, de créer des projets ensemble. Et la spécificité du GEM, c'est que c'est une association d'usagers. Chaque GEM est une association propre. Et c'est eux qui constituent le bureau, donc voilà, un président, un trésorier, chacun se répartit un peu les rôles en fonction de là où il se sent le plus compétent. Ce sont les personnes bénéficiaires du GEM, en fait, les adhérents, qui décident de ce qu'elles souhaitent faire avec le soutien d'une professionnelle en place sur chaque site. Donc sur le GEM d'Evron, c'est Mathilde qui les aide un peu dans la réalisation de leur projet, pour décortiquer un peu les étapes d'un projet, voir ce qui est réalisable ou pas, essayer de trouver les moyens matériel de réaliser ça. Donc ça peut être des choses très simples. Il y a beaucoup d'échanges informels entre les personnes sur le site du GEM. Donc c'est dans une maison à Château-Gontier, un pavillon, avec des jeux de société, etc. Mais c'est aussi l'inscription dans la vie de la cité à travers différents événements, notamment le FestiGEM là, qui fait partie intégrante de la programmation de la fête de la musique d'Evron. Il y a d'autres moments aussi dans l'année, sur le marché de Noël par exemple, où vous avez fait des réalisations que vous avez pu vendre. Donc ça contribue un peu à la caisse pour investir ça dans d'autres projets ou des achats de nouveaux jeux ou de nouveaux matériels sur le GEM. Ben voilà, tout est possible. On a tous des centres d'intérêt, des sensibilités différentes, des savoir-faire différents. Et c'est un lieu un peu d'échange et de partage. Il y a différents talents, on va dire, sur les GEM, et puis libre à chacun de proposer un atelier aux autres, etc.
On parle des 10 années donc de l'anniversaire du GEM d'Evron. Quelles sont peut-être les principales réussites? Quels sont les moments marquants sur ces 10 dernières années? Ça a évolué et le FestiGEM est notamment arrivé à un moment clé du GEM d'Evron.
Ouais, ça a évolué. Alors, à chaque fois, c'est le démarrage qui est toujours un petit peu poussif, on va dire. Mais les besoins avaient bien été identifiés quand même sur la création d'un GEM à Evron, en termes de public, voilà, isolement social, etc. Il y a eu des interrogations qu'il a fallu lever, ou des a priori, on va dire, qu'il a fallu lever pour la création de cette antenne à Evron, notamment avec les EDI, qui pensaient qu'on allait faire un petit peu la même chose qu'eux. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas la même chose parce que c'est une association d'usagers, donc la philosophie n'est pas du tout la même, quoi. C'est les gémeurs qui décident de ce qu'ils font, voilà, même s'ils peuvent échanger aussi dans les EDI. Là, c'est vraiment leur association. C'est à eux de la faire vivre.
Pierre, si on parle du GEM d'Evron plus spécifiquement, est-ce que tu peux nous parler du tout début?
Donc ça a démarré, voilà, il y a eu plusieurs adresses. Hein. Au départ, on était en plein centre-ville. Il fallait démarrer assez vite puisque les financements étaient attribués, etc. Donc on avait des locaux qui étaient un peu étriqués, très étriqués même, mais qui suffisaient à lancer quand même le groupe d'entraide mutuelle. Très vite, on a déménagé dans un espace un peu plus adapté, plus spacieux, parce qu'il y a quand même pas mal d'activités collectives qui nécessitent d'avoir un peu d'espace. Il y a beaucoup de matériel pédagogique, etc. aussi. Donc on a eu un pavillon après, pas loin des pompiers, là, à côté d'Aldi. Et là, c'est notre quatrième adresse depuis 2015. Donc voilà, on est dans un pavillon, 14 rue Gustave Eiffel à Evron.
Est-ce que tu peux nous décrire cet espace? Est-ce que tu peux nous décrire l'intérieur du GEM?
On est dans un pavillon de plein pied et là on est dans la pièce principale de vie commune. Voilà, avec une grande table centrale autour de laquelle les gens se réunissent pour échanger sur les projets, pour se distraire, voilà, partager un jeu de société, un café. Il y a aussi beaucoup de repas collectifs, ça c'est toujours des moments sympas. Qui fédère. C'est un lieu où on doit se faire plaisir aussi. Hein. Voilà, on est entouré de jeux de société, de créations manuelles, notamment il y a des décorations là, qui ont été faites pour le FestiGEM qui approche là, le 21 juin. Un panneau d'affichage pour s'inscrire pour les activités en fait, qui sont décidées. Il y a un programme mensuel à chaque fois qui est décidé en équipe. Donc c'est toujours en équipe et c'est validé par le bureau.
On y retrouve quel type d'activité par exemple, Pierre?
Il y a des repas, il y a des sorties, il y a des visites, plein de choses. Et les gens peuvent s'inscrire. Voilà, il y a avec toujours, suivant les sorties, suivant l'éloignement ou le coût, il y a une petite participation aussi qui est décidée ensemble sur le transport, sur est-ce que chacun amène son pique-nique ou est-ce que où il y a une participation de l'association. Il y a aussi un système d'adhésion dans les GEM, donc qui reste symbolique. Là, vous êtes à 8 euros, je crois, l'adhésion annuelle. C'est pareil, le montant de l'adhésion est décidé en équipe. Et puis, bah, ça a une valeur symbolique, c'est-à-dire qu'on s'engage à devenir adhérent de l'association, à la faire vivre, à apporter ses valeurs de tolérance vis-à-vis des autres, de mixité, voilà, d'entraide, de bienveillance. C'est vraiment un lieu où on défend ça. Pas de jugement, comme dit Alain. Ouais.
Toi qui as particulièrement croisé plein d'histoires, plein de personnes qui ont dû fréquenter, en particulier par exemple le GEM d'Evron, en quoi c'est essentiel d'avoir ces espaces-là et en quoi ils sont manquants s'ils n'existent pas, particulièrement ici?
C'est essentiel, que ce soit sur Evron ou les autres GEM sur lesquels je suis amené à intervenir. On a beaucoup de gens dans les GEM. Où le GEM est leur seul, vraiment leur seul espace de vie sociale, en dehors des sorties obligatoires qu'ils doivent faire pour leur traitement au CMP, pour aller faire des courses et des rendez-vous médicaux. Donc on a quand même un certain nombre de personnes qui sont très isolées socialement. On vit à une époque où il y a les portables, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça, mais la solitude a peut-être jamais été aussi forte et impactante qu'aujourd'hui. Ça a démarré les GEM en Mayenne plus sur le volet fragilité psychologique, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est vraiment le lien social et l'isolement social en fait. Le GEM répond essentiellement à ça. Après, sur les fragilités psychiques, etc., le GEM n'est pas un lieu de soins. Il y a beaucoup de personnes qui viennent au GEM qui ont un accompagnement dans le soin, mais ce n'est pas le lieu où on va forcément développer un accompagnement là-dessus. C'est vraiment le bien-être du collectif qui prime, mais ça n'empêche qu'on peut avoir un temps d'écoute avec les professionnels en place ou même une bienveillance mutuelle avec les autres adhérents. Mais l'idée étant que les problèmes personnels se règlent quand même avec d'autres partenaires à l'extérieur, qui sont plus compétents. Là, c'est vraiment le lieu de justement mettre ces difficultés entre parenthèses et de s'appuyer sur le collectif pour se changer les idées, pour... ça correspond surtout à ça, quoi. Un manque de lien social qui impacte beaucoup de gens aujourd'hui, que ce soit en ville ou dans les campagnes, quoi.
Il y a 4 ans, puisque là, ce sera la 4e édition du FestiGEM, qui aura lieu donc ce samedi 21 juin à 14h au Trait d'Union à Évron. Il y a eu l'idée, le besoin même de créer cet événement-là. Il y avait une perte de dynamisme du GEM d'Évron. Et donc, cette idée a germé et depuis, elle perdure.
Ouais, c'est ça. Comme dans tout collectif, un collectif, c'est vivant. Ça a des hauts et des bas, comme chaque être humain, en fait. Hein, c'est un peu une entité. Le fait est que pour des raisons plus ou moins identifiées, ça ne s'explique pas. Des fois, c'est une conjoncture qu'on ne maîtrise pas trop. Il y a eu un manque de fréquentation très important sur le GEM d'Evron il y a 4 ans. Il subsistait juste un tout petit groupe de 3-4 personnes qui venaient, mais qui n'étaient pas non plus dans un dynamisme fou. Ils venaient pour... C'était très ritualisé pour jouer à la belote, etc. Et ça a commencé à poser question sur le sens originel du GEM, quoi, enfin les objectifs. Ça nécessitait de trouver un moyen de redynamiser ça. Donc moi, j'ai fait cette proposition, en tout cas, de faire un événement visible en termes de communication, de visibilité, pour faire connaître, enfin remettre un coup de projecteur sur le GEM, le faire connaître vraiment à la plus grande échelle possible, etc. Étant musicien amateur en dehors du boulot, c'est le truc qui m'est venu en tête, quoi, parce que pour moi, c'est facile à réaliser. La musique, ça parle à tout le monde, quoi, même si on n'est pas musicien soi-même, on en écoute, etc. Et puis en plus, dans les campagnes, il n'y a pas toujours énormément d'événements culturels, etc. Donc l'idée pour moi, c'était de faire un petit festival musical, mais qui soit organisé par le GEM et qui se déroule au sein du GEM, ouvert au public, d'autant plus qu'on avait repéré, que ce soit dans les GEM, mais aussi les autres services du GEST, qui est l'organisme gestionnaire des GEM, et ben dans différents services, notamment le SAMSA où je travaille, il y a des talents d'écriture, etc., des musiciens amateurs qui font du slam, qui font de la chanson, notamment un groupe que j'anime depuis 10 ans, qui s'appelle les Icos du Cœur, donc qui a pu jouer à cette première édition. Donc on a rassemblé un peu tous ces talents-là et parallèlement on a essayé de créer des liens aussi avec les partenaires locaux, notamment Wassem avec le Conservatoire d'Éco Évron, qui a proposé un atelier chanson au GEM, avant l'événement du FestiGEM, et puis même après ça a repris, je crois que Il y a eu 2 années de suite où il a proposé cette activité-là. Et le jour du Festigem, il est venu avec une chorale qu'il anime aussi dans le cadre de son activité professionnelle. Ben voilà, il y a eu des échanges avec, je ne sais pas, il y avait peut-être 6-7 artistes différents à cette première édition. Et puis, donc l'objectif de relancer le GEM avait été atteint. Ça a repris du dynamisme et puis cet événement avait tellement été agréable pour ceux qui l'ont organisé, qui ont participé, soit en tant qu'acteur ou spectateur, qu'on a décidé de le pérenniser. Ça a repris du dynamisme et puis cet événement avait tellement été agréable pour ceux qui l'ont organisé, qui ont participé, soit en tant qu'acteur ou spectateur, qu'on a décidé de le pérenniser. Donc voilà comment est né le Festigem. Jusqu'ici, ça s'est toujours déroulé dans les locaux du GEM, mais après dans une démarche d'inclusion, qui est aussi un des objectifs des GEM. On a créé aussi un lien un peu plus fort là, avec le Trait d'Union, au centre social d'Evron, qui nous prête sa salle en fait cette année. Donc le fait d'avoir une salle avec une belle scène, etc., ben, ça, on va jouer dans des conditions confortables. C'est inclus dans la programmation de la fête de la musique d'Evron, donc voilà, on parle d'inclusion. Sauf que cette année, la fête de la musique d'Evron se déroulera le samedi d'avant, le 14. Nous, on a maintenu le 21. Alors, au départ, c'était parti d'un malentendu, mais finalement, on se dit que le 21, ce sera pas si mal, parce que ça fait un événement unique aussi. Et à l'occasion des 10 ans du GEM, ça mettra un petit coup de projecteur spécifique, on va dire, sur le GEM.
Si on jette un coup d'œil sur cette programmation, à 14h, ce sera Hope et Angélique, suivi de Aglaé. Ensuite, ce sera Luna, puis à 16h, Les Icos du Cœur, qu'on a déjà eu le plaisir de rencontrer dans cette émission. À 17h, ce sera Blue Fire in the Moon. Ensuite, Stéphane. Et puis pour terminer, à 18h, Les Expressionnants. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour cette quatrième édition, Pierre ?
On peut espérer qu'il y ait beaucoup de monde de l'extérieur, quoi. Que ce ne soit pas que des personnes du GEM ou des autres GEM ou de l'association Geste. C'est vraiment l'objectif, c'est d'attirer le public, quoi.
Merci Pierre. Donc rendez-vous au Trait d'Union à Évron ce samedi 21 juin à partir de 14h.
Dis Mimi, tu crois qu'on passera un jour dans l'émission ?
Ben, faudrait déjà que tu arrives à faire une phrase, mais sans faire de blagues.
Et c'est sûr. Maintenant, je vous propose une respiration musicale. C'est une chanson qui parle d'une chute qu'on n'a pas su éviter, des mots qui arrivent trop tard, d'un lien qui se défait en silence. Voici Parachute de Sean O'Nolenon. Ensuite, on retrouvera Maxime pour la revue de presse du Haut-Anjou.
Before the dive, baby, don't you cry.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre revue de presse du Haut-Anjou. On commence cette revue de presse avec une belle aventure. Constant Prélate, un jeune de cran, va descendre la Mayenne, la Maine puis la Loire à bord d'un bateau qu'il a construit lui-même. C'est une vieille plate austréicole de 1968. Son but, suivre le chemin d'une goutte d'eau jusqu'à l'océan. Il partira le 21 juin de la ville de Mayenne. Pendant son voyage, il veut filmer les rencontres, la nature, la vie au bord de l'eau. Il espère en faire un film. On continue cette revue à Renazé, où un projet original est en train de naître. Geoffroy Gillot veut ouvrir un mini-golf couvert dans une ancienne ardoisière. Il imagine un décor sur le thème de la mine avec de vieux outils. Il pense aussi ouvrir un snack et peut-être plus tard un escape game ou un laser game. Et on termine cette presse avec la fête des caisses à savon à Vergonne qui a eu un grand succès. Il y a eu près de 2500 spectateurs, une trentaine d'équipes, des déguisements, des chorégraphies et des bolides très créatifs. La vitesse record a atteint 54 km/h. Le premier prix revient au groupe Boboris de Saint-Aignan-sur-Roué. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre écoute. Retrouvez toutes les infos dans le Haut-Anjou chaque vendredi en kiosque ou sur hautanjou.fr. A très bientôt et surtout prenez soin de vous.
L'agité du local sur l'autre radio.
Parfois, un mot suffit à tout renverser. Plongeons maintenant dans les coulisses du Festigem à la rencontre de Stéphane qui transforme le slam en théâtre intime. J'ai été à sa rencontre lors d'une répétition aux côtés de Vincent, père aidant et complice de chaque mot. Écoutez. Il y a des mots qu'on garde en soi trop longtemps, des mots qu'on finit par dire tout haut, non pas pour qu'on les entende, mais pour qu'ils cessent de peser. Stéphane écrit, slam, joue, il mêle les silences au rythme et les failles au refrain. Depuis quelques années, il est accompagné par le SAMSA et aujourd'hui, il monte sur scène. C'est lors d'une répétition avec Vincent, père aidant et musicien, que je suis venue à sa rencontre. Un moment entre texte et présence. Écoutez.
Moi, c'est Vincent. Je suis salarié de l'association Geste Mayenne au SAMSA. C'est une des antennes du pôle santé mentale. Je suis père aidant. C'est une fonction qui existe en France depuis officiellement 2012, qui a été créée par le CCOMS. Le Centre collaborateur mondial de la santé. J'ai commencé plusieurs petits projets avec mes compétences de musique surtout. J'utilise beaucoup comme support avec des gens que j'accompagne ou pas. Donc l'un des projets musicaux importants que je fais, c'est avec Stéphane. On se réunit avec Stéphane depuis maintenant 2 ans.
Moi, c'est Stéphane. Je suis suivi par le SAMSA par rapport à des soucis mentaux et aussi j'ai une maladie, c'est le diabète. Au début, je lui ai proposé 6 textes. Il a pu mettre de la musique dessus et on a fait le premier Festigem avec les 6 textes. En fait, c'est des textes autobiographiques. Il y a beaucoup d'autodérision, donc ça va faire la 3e année que je vais le faire. La première année, je l'ai fait plutôt soft, parce que c'était l'époque où j'étais encore un peu fragile. L'année dernière, j'ai commencé vraiment à théâtraliser tout ça. Et cette année, là, je vais complètement me lâcher, parce que niveau mise en scène, je m'y connais quand même pas mal, parce que j'ai fait 20 ans de théâtre, 25 ans, 25 ans de théâtre. Donc en fait, j'ai décidé de mettre en scène mes textes. Et avec la musique de Vincent, on a fait un mini-spectacle. Cette année, ça sera un mini-spectacle.
Si je dis que ton style musical, c'est du slam, est-ce que toi, ça te va bien ou est-ce que tu le définirais autrement ?
Je chante très mal. Donc en fait, j'ai décidé de théâtraliser mes textes. Et c'est plutôt le côté Regals que slam.
Toi, Vincent, comment est-ce que tu travailles ta musique par rapport à ces textes ?
C'est souvent de l'instantané. Je cherche pas trop à intellectualiser le truc, surtout la sensation. En fait, s'il va écrire un truc comique, un truc sérieux, un truc sentimental, un truc comme ça.
Tu joues de quel instrument, Vincent ?
Je joue la guitare, guitare-chant.
J'écris des textes, je sais que Vincent, derrière, il va me trouver une musique qui va me plaire. Donc y a une confiance commune. Et on a trouvé tout de suite l'accroche tous les deux en fait dans la composition. Donc je parle de mes soucis avec le diabète par exemple. J'ai des soucis au niveau urinaire et en fait je joue un personnage qui porte une couche qui sur le pantalon avec une couche sur la tête et qui est un peu dégueulasse. Et en fait, et je parle de, du fait de mes fuites en fait au niveau urinaire, tout ça. J'ai plein de thèmes. Je peux être très très romantique, très fleur bleue. Mais je peux aller aussi un peu dans le crash. Je pense que c'est ça qui est important quand on s'exprime sur scène, c'est de composer des textes variés et pouvoir trouver le rôle approprié. Donc quand j'écris le texte, j'ai déjà le rôle en tête en fait.
Vincent nous a parlé d'instinctif dans sa manière de composer la musique sur tes textes. Comment toi tu nous parlerais de ta manière de travailler, d'écrire ?
Je suis beaucoup influencé par Renaud. Déjà, je suis un fan de Renaud depuis tout petit. Tout ce que j'ai vécu, je compose un texte. J'ai composé un texte sur le fait de prendre trop de médicaments et qu'on a l'impression d'avoir perdu la mémoire. Donc j'ai composé Alzheimer. En plus, ma grand-mère a Alzheimer, donc ça me va droit au cœur. Mais c'est surtout instinctif. Vincent m'a raconté la semaine dernière quand on s'est vu que quand il jouait le morceau, il se cachait pour pas rigoler parce que j'allais vraiment à l'extrême.
Tu vois, on parlait de liberté et à chaque fois qu'on se voit, on se dit, on le fait ou pas ? On se demande s'il faut qu'on se censure sur certains trucs. Mais au final, je pense qu'on arrive, on est d'accord qu'on y va, quoi. Comme tu dis, on trache un peu par rapport à c'est l'actualité du moment. On n'est pas non plus des bourrins, quoi. C'est plus, ça reste plutôt... Bon enfant.
Qu'est-ce qui compte pour toi, Stéphane, quand tu choisis tes textes, quand tu choisis ce que tu vas amener sur scène ?
Bah, quand je choisis mes textes, en fait, je le fais déjà par rapport à moi. C'est par rapport à ce que j'ai envie de dire sur ma vie. En fait, les souvenirs que j'ai de mon enfance et le public, en général, ils se reconnaissent. C'est le plaisir de donner aux gens en fait, ce que j'ai vécu. Et il y en a qui se reconnaissent énormément dans mes textes, quoi.
Depuis que ce projet existe, que vous êtes rencontrés, que vous avez commencé à créer ensemble, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé pour toi ?
Je pense, avec Vincent, on a une sensibilité qui est la même. On est tous les deux fragiles, donc on se comprend mieux. Et je pense que c'est pour ça que ce projet, il est fiable, il marche, parce que lui, il a un côté un peu plus professionnel. Donc c'est pour ça que je me dis, repose-toi sur lui par rapport à ce que je peux faire, ce que je dois faire, ce que je dois essayer de me contrôler ou pas. C'est ça qui fait notre force, en fait.
Et pour l'auditeur de l'autre radio qui ne connaît pas encore le Festigem, tu auras envie de lui dire quoi ? Pour lui dire, viens découvrir ces propositions artistiques qui vont monter sur scène.
Je pense que la force du Festigem, c'est que justement les artistes, ils ont une fragilité. Alors soit ils sont bipolaires, soit ils ont une maladie comme le diabète, ou ils ont une fragilité que... Et malgré cette fragilité, ils vont oser venir sur scène pour proposer leur composition ou reprendre des chansons des artistes. Je pense que c'est l'idée en fait du Festigem, c'est que les personnes qui ont un certain talent, malgré leur fragilité, malgré ce qu'ils vivent dans la vie de tous les jours, ils ont un don. Et le don, c'est la création, donc il faut venir le 21 juin.
Stéphane, tout à l'heure, tu nous parlais de ton titre Alzheimer. J'ai envie de te demander, est-ce que tu accepterais de nous le jouer ?
Je ne sais pas si c'était avant ou si c'était bien après. Peut-être que je vous mens, mais je ne le fais pas exprès. C'est peut-être un oubli, mes neurones qui se balancent. Le début de mes insomnies ou la vieillesse qui commence. Je ne suis vraiment pas sûr. Je crois que je l'ai juste rêvé. Était-ce une belle aventure ou un visage inventé ? Alors j'ai pris une feuille de dessin. J'ai fait quelques traits. Au début, ça se passait très bien. À la fin, j'ai tout déchiré. C'était trop mauvais.
Je n'arrive plus à m'en souvenir, mon cerveau devient trop vieux. Il part complètement au délire, je ne me souviens même plus du lieu. Peut-être bien à Lons-Saunier, ou peut-être à Paris. Était-ce aux Champs-Élysées ou au musée de la Vache qui rit ? Pour me rappeler du temps, j'ai contacté la météo. Elle m'a dit qu'il y avait du vent et qu'il faisait très beau. Pas sûr, je suis allé voir une voyante pour qu'elle me dise la vérité. Elle m'a dit une chose hallucinante que je ne peux révéler. Je devrais me faire examiner. J'ai sûrement une grave maladie. Mon médecin va me stimuler en me prescrivant de l'homéopathie. Imaginez qu'ils me disent « Monsieur, surtout n'ayez pas peur. Regardez-moi moi dans les yeux, monsieur, vous avez... » C'est quoi déjà le mot ?
Je sais plus. C'est quoi déjà ?
Je sais plus, mais il y a...
Tu te rappelles pas ?
Non, je me rappelle pas.
Attends, je comprends pas, attends. Je sais plus. Ah si, je sens que ça vient. C'est quoi ta maladie ?
Perte de mémoire, là, c'est quoi ?
L'heure d'Hammer ? Non ?
Non, c'est du fromage, ça.
Merde.
Alzheimer ! Purée, c'est bon, ça, j'ai trouvé ce que j'avais ! C'est Alzheimer ! Alzheimer, les gars ! Ouais, c'est chouette ! Alzheimer, quoi ?
Dis Mimi, tu crois qu'on passera un jour dans l'émission ?
Ben faudrait déjà que tu arrives à faire une phrase, mais sans faire de blague.
Et c'est sur l'autre radio. Alors nous voilà arrivés au moment de la chronique de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Loïc Bedouet, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
La sécurité sociale.
On vous écoute.
Eh bien écoutez, nous fêtons cette année les 80 ans de la sécurité sociale. L'occasion de rappeler les origines de cette grande institution, fondée en France au sortir de la Deuxième Guerre mondiale par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945.
En quoi la création de la sécurité sociale en 1945 a-t-elle été novatrice ?
La sécurité sociale s'inscrit dans la société de l'époque. Les différentes formes de couverture de risques existaient déjà antérieurement d'ailleurs, en particulier des systèmes de prévoyance collective pour certaines professions qui s'étaient organisées, souvent syndicalement, sous l'égide des mutuelles. D'ailleurs, on les appellera plus tard les régimes spéciaux. Mais en 1945, la volonté, et c'est là que réside l'immense avancée sociale que représente la sécurité sociale, est d'étendre la protection sociale dans ses trois dimensions, santé, vieillesse, famille, à toute la population, sans exception, d'où d'ailleurs le terme « régime général ». Deux exemples s'offrent alors aux Français en 1945. Le système allemand, dit bismarckien, mis en place au XIXe siècle du nom du chancelier Otto von Bismarck et qui repose sur des cotisations sociales. Et le système anglais, dit beveridgien, créé en 1942 du nom de Sir William Beveridge, qui repose sur l'impôt et donc géré par l'État. À l'époque, en France, contrairement à l'Angleterre, l'État est totalement discrédité parce que la quasi-totalité des parlementaires avaient voté les pleins pouvoirs à Pétain. On ne veut pas alors que l'État préside aux destinées de la sécurité sociale et donc on confie le budget de la sécurité, qui déjà est plus important que celui de l'État en 1945, à ceux qui vont cotiser et recevoir les prestations. Et c'est ainsi que la sécurité sociale va être gérée par l'intermédiaire des syndicats dans le cadre du paritarisme.
Et alors, quelles avancées cela a-t-il permis ?
Alors aujourd'hui, les niveaux de vie se sont améliorés et l'espérance de vie a augmenté. Alors, la façon dont on regarde la réussite sociale a bien changé et tout nous paraît naturel et acquis, pour toujours. Cependant, le rôle de la sécurité sociale reste le même. Elle continue à remplir sa mission essentielle qui est de sauver des vies. Quand on fait des grandes découvertes médicales, aussi importantes soient-elles, par exemple sur les antibiotiques, les médicaments, les techniques d'investigation du corps humain, les techniques opératoires, cela ne sert strictement à rien si les gens ne peuvent pas se le payer. Ce qui a permis de sauver des vies et d'améliorer le niveau sanitaire de toute la population, c'est le fait qu'il y ait eu socialisation d'un système que l'on nomme sécurité sociale. Il ne faut pas perdre de vue que sans la sécurité sociale, notre vie ne serait que précarité. Qui pourrait se payer une intervention chirurgicale et plusieurs jours d'hospitalisation sans l'assurance maladie ? Qui pourrait survenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans les indemnités journalières quand la maladie nous frappe ou que l'accident survient ? Bien peu le monde, je le crains. De plus, c'est grâce à la sécurité sociale que les personnes malades peuvent continuer à vivre, à consommer et en ce sens à participer à la vie économique du pays. Et c'est là un côté positif trop souvent perdu de vue. On entend souvent, de la part de certains, que la sécurité sociale vient assister les individus. Mais n'est-ce pas aussi une véritable assistance pour les entreprises et les banques ? Enfin, et peut-être surtout d'ailleurs, par son système assurantiel de cotisation obligatoire d'une part et de redistribution envers ceux qui en ont besoin le plus d'autre part, la sécurité sociale est un véritable ciment de cohésion dans notre société.
Pourtant, aujourd'hui, on parle beaucoup de trous de la sécu. Alors, quelle est la situation économique actuelle de la sécurité sociale ?
Alors, c'est vrai qu'on regarde maintenant de plus en plus la sécurité sociale avec des yeux de comptable. C'est une profonde transformation et qui est d'ailleurs totalement atypique, qui va même contre l'histoire. Car on a développé la sécurité sociale en France en 1945 et on ne doit pas oublier qu'à cette époque, le pays était ruiné par la guerre. À l'époque donc, le choix politique est la soutenabilité sociale à la soutenabilité financière. C'est-à-dire que face aux besoins, on décide de mettre en place des recettes à côté des dépenses. C'est dans les années 80 que l'on fait exactement le contraire. On décide d'arrêter de poursuivre le financement pour ne plus satisfaire tous les besoins. Cela génère un déport sur les organismes privés, puisque même si la contrainte budgétaire existe, ça ne supprime pas le besoin. Deux exemples. Les retraités veulent toujours manger et se soigner. Chacun a donc besoin d'avoir confiance dans un système de retraite et aujourd'hui, chacun est encouragé à faire appel à des produits de capitalisation. Système particulièrement mauvais et à rejeter car profondément inégalitaire. On peut réduire les dépenses de santé, certes, mais les gens veulent en tout cas, dans certains cas, profiter de la nécessité de la prothèse de hanche, par exemple, ou du genou. Et pourquoi ne profiterait-il pas de ce progrès technique ? C'est une aspiration fondamentale qu'il nous faut bien financer. Alors, loin de moi l'idée que l'équilibre financier n'est pas recherché. Le fameux trou de la sécu, marronnier journalistique depuis 40 ans, est en fait le déficit du régime général. C'est une différence entre les recettes et les dépenses qui aujourd'hui est à peu près de 11 milliards d'euros. Mais il faut rapprocher ce chiffre aux 80 milliards d'euros d'allègement et d'exonération des cotisations patronales.
Tout est donc question de choix.
Bien sûr, exactement. Tout est question de choix. Ou le choix de la solidarité par le biais de la socialisation des recettes est maintenu, ou nous glissons doucement, et c'est le cas, je le crains, depuis plusieurs années, vers un système économique ultralibéral au profit de quelques-uns qui auront les moyens de se soigner et au détriment du plus grand nombre. C'est pourquoi, dans ce domaine, toute décision doit être éclairée au regard des valeurs que porte la sécurité sociale qui sont au nombre de trois. D'abord, l'universalité. Parce que la santé est précieuse pour chacun, il faut faire en sorte que les services de prévention et de soins médicaux soient accessibles à tous. Ensuite, la solidarité. Et ayons toujours à l'esprit le vieil adage, on cotise selon ses moyens, on reçoit selon ses besoins. Et enfin, la responsabilité, en donnant toute sa place dans la gestion aux corps intermédiaires et en particulier aux organisations syndicales.
Merci beaucoup Loïc, à bientôt.
Au revoir, merci.
L'agité du local sur l'autre radio.
L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Pierre, merci aux Gemmes d'Evron, Stéphane et Vincent pour leur très bel accueil. Merci à toi Maxime. Alors l'agité rend l'antenne, mais ça continue sur les ondes de l'autre radio.
Et oui Margot, la soirée commence à 19h avec Selenoid. L'émission propose chaque semaine un voyage sonore de base, de musique planante, cinématographique et ethnique.
Et ensuite à 21h.
La soirée continue en musique avec la discothèque.
Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Nous serons avec François Ledeuf, administrateur et programmateur de l'Entracte à Sablé-sur-Sarthe, qui nous parlera de la prochaine édition du Festival Pop au Parc. Et puis, on continuera bien sûr notre découverte des artistes présents lors du Festigem. D'ici là, démarrez cette semaine sans chercher à impressionner qui que ce soit. C'est lundi. Restez tranquille, vous le méritez. S'il vous plaît, faites-le bien.
Bon, ben, Mimi, on dirait que c'est fini. Oh, ben, c'était bien, hein.